Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat. Une émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce nouveau rendez-vous. Rendez-vous Interclimat par Uniclimat, deuxième édition déjà. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je suis bien sûr en compagnie de Hugues Edgens. Bonjour Hugues.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
Eh ben très très bien, hein. Le salon s'annonce super bien, voilà.
C'est vrai.
Ça toujours sur la lancée précédente, donc plus de 84% de la surface commercialisée à ce jour.
84%, ah oui, donc les retardataires, attention là, hein, ça sera bientôt complet.
Exactement, et donc déjà 165 exposants et on vise toujours 15% de croissance pour cette édition, donc tout va bien.
Voilà, avec évidemment pas mal de choses, de nouveautés, d'innovations qui se préparent dans les coulisses. Hugues, je rappelle que vous êtes chargé de mission Interclimat 2022 par Uniclimat, vous êtes Uniclimat propriétaire du salon Interclimat et que le salon Interclimat se déroulera, noté dans vos tablettes, du 3 au 6 octobre 2022 avec une nouveauté, Porte de Versailles à Paris. Paris, donc centre, hein, contrairement à, aux précédentes éditions. On s'intéresse à un des partenaires, des acteurs, effectivement, de l'écosystème. On va s'intéresser ce mois-ci à Synasav. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce syndicat national, Hugues ?
Je laisserai plutôt Roland Bouquet en parler tout à l'heure, mais effectivement, le Synasav, c'est un des acteurs de la maintenance et de l'exploitation. Nous, on souhaitait avoir ce type de partenariat et ces entreprises sur le salon, parce que les équipements, c'est bien joli, il faut les installer. Mm-hmm. Ensuite, pour qu'ils soient durables, pour qu'on maintienne les performances dans le temps, il faut les maintenir, il faut les exploiter. Donc, le Synasav, c'est la grande spécialité de cette organisation professionnelle.
Alors, ils sont là, effectivement, pour nous en parler. On a trois grands témoins en plateau avec nous. Roland Bouquet, bonjour Roland.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes président donc du Synasav, dirigeant de Atougaz, une entreprise de maintenance basée à Lyon. Combien de salariés, Atougaz ?
Environ une quarantaine.
Ouais, c'est pas mal. Belle petite société. À vos côtés, Cyril Radici. Bonjour Cyril.
Bonjour Fabrice.
Directeur général du Synasav. Bienvenue à vous.
Merci.
Et puis, à distance, on est en compagnie de Claude Bossec. Bonjour Claude.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes président de la région Grand Est du Synasav. Combien y a de régions, Synasav ?
Ah ben, aujourd'hui, on est à 8 régions et bientôt, j'espère qu'on y sera plus. Mais voilà, on n'est pas dans un secret des dieux, mais logiquement, on devrait être un peu plus représentatif sur nos régions et donc on aura une augmentation liée à nos présidents de région.
D'accord. Donc, on va focus sur la région Grand Est que vous présidez. Vous êtes, vous, fondateur et président du groupe MUST, groupe IDEX. Le siège est basé près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Où ça exactement ?
Alors c'est vraiment tout, ça touche Nancy. Voilà, c'est une boîte qui s'est constituée, c'est une société qui s'est constituée dans les années 99. Aujourd'hui, il y a à peu près 850 salariés, à peu près 100 millions de chiffre d'affaires. Voilà, on est uniquement dans le logement et plutôt dans le logement social avec bien entendu du particulier.
Très bien. Allez, on démarre évidemment avec le président, Roland Bouquet. On va justement préciser ce que fait, qui est exactement le Synasav et comment il se développe. Tout d'abord, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre organisation professionnelle ?
Oui, merci Fabrice. Bah, écoutez, le Synasav, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est une très bonne question. Je vais tenter d'y répondre assez facilement. Eh bien, c'est l'organisation professionnelle nationale, voilà, qui regroupe les entreprises de maintenance en France. Donc c'est un syndicat qui existe depuis 1966. Voilà, donc une certaine expérience, une certaine expertise dans le domaine. Alors, le Synasav finalement couvre l'ensemble des systèmes qui équipent les logements. Pourquoi ? Bah, pour le chauffage, pour la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation ou le confort d'été, et le traitement d'eau. Voilà. Alors les entreprises représentent plus de 16 000 salariés en France et qui sont répartis sur environ 800 sites.
D'accord, c'est un secteur, c'est vrai, très atomisé, mais vous avez l'avantage de les fédérer, de les réunir.
Tout à fait, je dirais qu'encore plus, on va même plus loin que les réunir, parce qu'on intervient chez nos clients chaque année à hauteur de 14 millions de fois par an.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc c'est... Voilà, un autre chiffre clé assez important, les entreprises adhérentes au CINASAV assurent la maintenance des 90% de 90% des 5 millions de logements sociaux qui sont équipés de systèmes individuels.
Bon, Hugues a fait déjà le calcul, donc 4,5 millions de foyers, grosso modo, hein, c'est ça ?
Ah, bravo.
Voilà, et puis bon, je dirais deux vocations principales au CINASAV. La première vocation, eh ben, finalement, c'est d'accompagner, c'est d'aider les entreprises dans leur quotidien. Pour ce faire, eh bien, on est armé, on va dire, d'une équipe de 6 permanents qui bossent tous les jours pour vraiment aider nos entreprises. Et puis une deuxième vocation qui est plutôt d'ordre politique, je dirais, avec l'idée de défendre, de promouvoir la maintenance auprès des pouvoirs publics et des institutionnels. Et c'est quelque chose de relativement important de nos jours.
Bon, je prends la balle au bon, je suis obligé, là, vous parlez politique, on est à quelques mois d'une grande échéance. Vous êtes entendu, les différents courants, là, vous écoutent, vous pouvez y accéder facilement, leur donner voilà, des choses, justement, pour faire leur proposition.
Eh bien, écoutez, on participe à faire le tour, on va dire, des écuries, des principales écuries pour les prochaines élections. Pour essayer de porter en tout cas la voix de la maintenance pour nos futurs élus.
Cyril Radici, avec vous, on va voir, vous êtes directeur général, pas mal d'actualités hein, du CINASAV, effectivement. Nouveau logo, nouvelle identité, 2022, ça part sur les chapeaux de roue.
Alors 2022, ça part très très fort. Ce qui est sûr, c'est que 2022 va être dans la continuité de ce qu'on a fait en 2021. C'est vrai qu'on a des beaux dossiers et là je laisserai Roland en parler un peu plus longuement. Mais c'est vrai qu'on a, moi sur le troisième temps en tout cas de ce rendez-vous, j'aborderai avec vous le sujet d'Energy Makers. Vous allez voir, c'est un sujet, en tout cas c'est une marque qu'on lance au CINASAV qui va frapper fort et qui va faire beaucoup de bruit. Alors je fais un peu de teasing, je vais laisser mon président continuer sur la lancée et vous expliquer un peu nos gros chantiers sur 2022. Et puis moi je reviendrai avec vous pour Energy Makers.
Merci Cyril, oui.
Alors les chantiers,
Des beaux chantiers en perspective. Oui, comme l'a rappelé Cyril, on profite finalement de cette belle dynamique de 2021 pour engager sur le premier semestre 2022, allez, trois temps forts que sont un premier temps fort avec les réunions interrégionales, c'est-à-dire que ça y est, depuis deux ans, on a été privé de terrain, hein, on ne pouvait plus organiser ces réunions. C'est des réunions historiques où finalement on vient au plus près des territoires rencontrer nos adhérents et nos partenaires. Quatre réunions, super facile. On en a à Reims, on a Nantes, Toulouse et Avignon. Donc elles vont se dérouler les 23, 24 mars et 30 et 31. D'accord. Voilà pour le premier temps fort. Donc ces réunions nous ont manqué, comme je vous l'ai dit. Donc on est vraiment heureux en tout cas de venir à la rencontre de nos adhérents et nos partenaires.
Ouais, elles sont attendues hein, par
voilà,
les adhérents.
En réunion, tout à fait. Deuxième temps fort, vous savez qu'on a lancé l'année dernière, des émissions de TV qui s'appellent les Rendez-vous CINASAV. Et on en a une qui va passer le 17 mars sur un sujet ô combien important, qui est le sujet de l'attractivité de nos métiers. On en parlera tout à l'heure avec Cyril. Et puis un troisième temps fort, on est en pleine préparation de notre congrès national qui se déroulera le 9 juin au Matmut Stadium de Lyon-Gerland. Et qui, je peux vous dire, vaudra le détour.
Belle adresse en tout cas, écrin magnifique, le Matmut Stadium, là on a hâte d'y être et ce sera effectivement une belle fête. Vous avez choisi, le CINASAV en tout cas, choisi d'être présent sur le salon, hein, sur Interclimat. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi c'est important ce rendez-vous également début octobre?
Bien, je dirais déjà, nous saluons hein, au CINASAV le retour de Interclimat à la porte de Versailles. Je crois que géographiquement c'est stratégiquement bien joué, facile d'accès bien sûr. Son nouveau format aussi, je crois que format peut-être un peu plus petit mais plus à taille humaine, donc c'est important. Je dirais que ça va être un moment pour nous, en tout cas un moment privilégié pour venir à la rencontre de l'ensemble de la filière, un événement de toute façon dans lequel nous devons d'être présents, nous organisation professionnelle nationale, nous experts de la maintenance. Alors aussi bah, une occasion de donner rendez-vous à nos partenaires et nos adhérents, bien sûr, et nos futurs adhérents.
Ouais, on le disait, hein, Hugues, c'est vrai que ça sera peut-être plus simple aussi pour tous les gens des territoires de venir tout simplement dans le centre de Paris plutôt que peut-être un petit peu à l'extérieur comme c'était auparavant.
Ouais, je pense qu'à Villepinte, ils avaient tous un petit peu peur. Bon, et puis faut reconnaître que les transports étaient pas des plus faciles toujours, en tout cas la sortie du salon le soir, voilà. Mais bon, clairement à la porte de Versailles, on est tout aux portes de Paris, on peut venir de toutes les gares. Non, la visite va être facilitée. Après, ça, comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas que des avantages hein, pour les exposants. Il y a des gros soucis logistiques, etc. Mais bon, ça, on gère.
Ouais. C'est en plus petit, visiteurs, bien évidemment, belle fête en tout cas pour les visiteurs. Et ça
globalement, sera, voilà, on a mis des règles. Il y aura un peu moins de... Enfin, on arrête la course aux grands stands, là, qui étaient un petit peu... qui sont pas dans l'air du temps, d'ailleurs, hein, puisqu'aujourd'hui, on parle d'impact carbone, de développement durable, etc.
Donc, frugalité.
Voilà, enfin, on va être efficace, ouais, très efficace, voilà. Mais on n'a pas besoin des stands énormes.
On parlait justement de l'identité visuelle, vous avez beaucoup de travail, enfin il y a eu beaucoup de nouveautés, hein, je le disais, cette année 2022 elle commence fort, les principaux axes de développement, Roland Bouquet.
Oui, alors effectivement, l'année dernière, courant 2021, on a complété, on va dire, notre identité visuelle par une baseline qui s'intitule les experts de la maintenance, acteurs de la décarbonation. Alors, nous avons voulu, je dirais, afficher quelque chose de fort. Nous avons voulu afficher clairement nos ambitions et prendre nos responsabilités. Je crois que c'est ça qui est important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut savoir que tous les jours, nos techniciens sont acteurs de la décarbonation. Alors vous me direz, oui, mais comment ? Eh ben, tout simplement dans le cadre de leurs interventions. Trois points rapides, mais déjà au sein même de l'organisation de l'entreprise. Je dirais que, et je suis bien placé pour le savoir avec mon entreprise, avec nos adhérents, nous développons une réflexion sur des modèles économiques qui soient les plus décarbonés possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bah c'est une optimisation détournée par des tablettes tactiles que sont équipés les techniciens. La mobilité, c'est un vrai sujet pour nos techniciens.
Le véhicule,
demain,
ouais,
le véhicule avec aujourd'hui notamment
l'arrivée de l'électrique,
et puis la réglementation autour des zones à faible émission, hein, des ZFE dans les communes en France de plus de 100 000 habitants. La connectivité des équipements. Je crois que ça, tout le monde est d'accord pour dire que la maintenance prédictive donne une efficacité dans le dépannage. Le recyclage des pièces détachées, demain, c'est un vrai sujet. Je dirais la priorisation des circuits courts. Enfin, pas mal de projets à ce niveau-là. Deuxième point, je dirais que naturellement, avec 14 millions d'interventions par an, on en parlait tout à l'heure, c'est 14 millions d'interactions avec nos clients, et donc autant d'associations, d'occasions de transmettre une culture bas carbone, oui, je dirais, en amenant à intégrer au volet économique de leur système, finalement un volet aussi écologique. Et puis enfin, en maintenant les systèmes hein, des clients, les techniciens de maintenance optimisent les rendements et la longévité et donc l'impact carbone. Voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi nous avons créé cette baseline. Encore une fois, je la répète, les experts de la maintenance, acteurs de la décarbonation. Je crois que les pouvoirs publics savent maintenant qu'ils peuvent compter sur nous, mais aussi qu'il faudra faire avec nous.
Bien sûr. Et puis, on disait 14 millions d'interventions. J'étais en train de réfléchir. C'est 14 millions de contacts. On est dans un métier de contact, humain, où on doit se déplacer. Là, pas de question. Enfin, c'est plus compliqué, j'imagine, de faire du télétravail. On peut pas réparer quelque chose à distance ou maintenir à distance. C'est compliqué. On est là aussi dans l'humain. On va le voir dans un instant. Hein. Il y a le rôle de ces métiers qui sont effectivement en tension. Vous avez participé également à la concertation publique volontaire sur la stratégie française sur l'énergie et le climat. Voilà, c'est une phrase à rallonge. Qu'est-ce que vous avez proposé ? Quels sont, oui, en alors, tout cas, vous avez développé ce qu'on appelle dans le jargon des ministères un cahier d'acteurs.
Oui, alors effectivement, pour rappeler à nos auditeurs qu'en fait, on a une stratégie qui est définie par les pouvoirs publics, qui s'appelait du reste la stratégie nationale bas carbone, et donc qui est aujourd'hui remplacée par cette fameuse SFEC. Voilà, alors c'est la stratégie française sur l'énergie et le climat. Bah, pour faire simple, on a voulu y contribuer parce que je crois que c'était très important que le CINASAF participe à ce cahier d'acteurs, comme vous l'avez rappelé. On rappelle notre domaine d'expertise, qui est la maintenance. Je crois que ça, c'est très important. Et surtout, on formule des propositions très concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, le CINASAF participe activement à l'élaboration de cette future stratégie. Bah, un exemple, allez, pour illustrer parmi nos 17 propositions, nous proposons la mise en place pour les foyers en précarité énergétique, eh bien, d'un chèque maintenance, qui est à l'image du chèque énergie, finalement, qui permettrait aux clients de faire entretenir leurs solutions. Parce que pourquoi ? Ben, c'est bien d'aider à l'investissement, à poser les appareils, mais ça serait un non-sens total, complet.
De ne pas pouvoir entretenir
si
après.
Ce matériel n'était pas entretenu. Donc, donnons les moyens finalement aux particuliers de faire entretenir leur matériel. Donc, pour ceux que ça intéresse, effectivement, toutes nos propositions, vous pouvez les retrouver. Elles sont consultables en ligne sur le site www.concertation-stratégie-energie-climat.
.gouv.fr. On mettra, ne vous en faites pas pour les auditeurs, on vous mettra le lien en dessous du podcast, bien évidemment. C'est vrai que si on prend l'analogie de la médecine, on le sait, ça coûte beaucoup moins cher de faire de la prévention que de se retrouver quand on n'a pas bien fait attention à sa santé. C'est la même chose un peu pour les dispositifs.
C'est exactement pareil. Et puis le technicien, on peut le comparer aujourd'hui à un technicien de famille. J'aime à rappeler que c'est un peu comme le médecin de famille qu'on a chaque année. Il y a ce mot à la mode, cette empathie qui est créée entre le technicien et son client. Je dis son client parce que le technicien, chaque année, une fois qu'il a fait la boucle, il retrouve ses clients. Donc il y a des relations qui se créent, il tisse des liens. Oui, effectivement. Allez, je vous fais une petite image par rapport au rugby. Je suis un club de rugby en région lyonnaise et à l'école de rugby, on aime à rappeler qu'un protège-dents, ça coûte 50 euros, alors qu'une dent, ça coûte beaucoup plus cher.
C'est vrai. Belle métaphore rugbystique. Bon, eh bien, on va voir. Bon, vous êtes quoi ? Vous êtes fan du loup ?
Entre autres, mes petits clubs amateurs aussi. Rugby amateur, c'est...
D'accord. Bon,
belles valeurs.
On est deux, effectivement. C'est vrai que ça véhicule des belles valeurs. Et puis, en plus, on a une belle équipe de France en ce moment. Profitons-en. On termine également avec, Roland, un dossier qui vous tient à cœur en ce moment. Parlez-nous de ce projet de création d'un CE des embouages. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, alors, on parle de décarbonation. Je tiens à rappeler quand même que le mot décarbonation, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, c'est pas un gros mot, et ça,
on a compris que c'était nécessaire. Même.
Il faut le rappeler, c'est nécessaire. En fait, la décarbonation, c'est vraiment en fait le fait de réduire l'empreinte carbone afin de limiter l'impact CO2 au niveau des systèmes et des entreprises. Et donc, on a décidé dans ce sens, toujours dans ce sens de cette nouvelle baseline au CINASAV, de militer pour, la création d'un C2E des embouages. Alors, je suis technicien de maintenance à la base, j'ai monté mon entreprise, je suis bien au courant, bien au fait des choses, et je peux vous dire que une installation qui est embouée, qui comporte de la boue, une boucle à eau chaude qui a de la boue, qui est pas en bon état, c'est des pannes à répétition. Aujourd'hui, on a fait un sondage au CINASAV. Une panne sur trois est due à un problème de qualité d'eau dans les réseaux de chauffage.
Vous appelez ça la thèse de turbidité de l'eau. Voilà, j'apprends
un
mot.
Exactement. Depuis juillet 2020 et notre arrêté maintenance, il est impératif que le technicien vérifie la qualité de l'eau par un test de turbidité pour voir si l'eau, en fait, par une vidange partielle, bien sûr, lors du gonflage du vase d'expansion, on rentre un peu dans la technique, mais c'est bien des fois, il contrôle la qualité de l'eau d'une manière visuelle et doit conseiller le client ensuite sur un éventuel devis de désembouage.
Ça veut dire que si c'est trouble, si c'est pas clair, finalement, il peut y avoir quelque chose qui peut être...
Exactement, on a plusieurs niveaux. quoi qu'il en soit, une eau qui est très chargée en boue, soit métallique, soit bactérienne, d'origine bactérienne, eh bien, va diminuer le rendement, va perturber le fonctionnement de l'installation, va faire consommer, bien sûr, les gens, va faire consommer les gens un petit peu plus au niveau du compteur. Donc, l'idée, c'était, voilà, de promouvoir et de porter, en tout cas au sein de la T2E, hein, qui est l'association qui gère finalement l'attribution des C2E, de porter un C2E, un certificat d'économie d'énergie, vraiment axé sur le désembouage. Ça serait une première, parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les C2E sont plutôt destinés à du matériel, des thermostats, des fenêtres isolantes, des chaudières, bien sûr, ou des pompes à chaleur. Et là, ça serait une première fois qu'on aurait un C2E pour une prestation de service. Mais voilà.
Coût du désembouage
environ. En gros, il faut compter, alors suivant les installations, hein, je dirais, mais il faut compter entre 500 et 700 euros.
D'accord.
Pour la prestation.
Donc c'est sur le dossier sur la table, en tout cas.
Oui, il est sur la table, il est sur le bureau de l'ADEME. Et donc on croise les doigts pour un dénouement heureux, en tout cas pour toute la filière, pour toute la profession.
Un dossier aussi également sur la maintenance des pompes à chaleur. On sait, hein, véritable carton ces pompes à chaleur qui n'en finissent pas de progresser, évidemment dans un contexte d'inflation sur l'énergie. Combien de pompes à chaleur finalement vous maintenez aujourd'hui?
Bah écoutez, aujourd'hui en tout cas on connaît le parc, hein, pour rien vous cacher, aujourd'hui on a c'est vrai une massification du parc de pompes à chaleur. Il s'en vend entre 250 et 300 000 pièces par an, donc des pompes à chaleur RO. Et donc, bien sûr, le CINASAF participe activement, je dirais, à la maintenance de ces pompes à chaleur. Et le rôle du syndicat, de notre organisation professionnelle, est justement d'accompagner nos adhérents qui avait plutôt un profil, on va dire, un peu plus gazier, à demain entretenir aussi ces solutions.
Très bien. Ah ben, en tout cas, voilà, c'est 300 000 pompes à chaleur. Évidemment, ce parc, il faut s'en occuper. On a fait à peu près le tour. On rappelle également que vous prenez la parole sur les réseaux sociaux. Hein, voilà, tous les réseaux sont activés et même votre chaîne YouTube où on peut voir pas mal de contenu, les tables rondes qui sont retransmises.
C'est exact.
Voilà, donc rendez-vous eh bien tout simplement sur le site CINASAF avec cette nouvelle ce nouveau logo, cette nouvelle baseline dont vous avez parlé, des experts de la maintenance, acteurs de la décarbonation. Merci à Roland. On va maintenant aborder eh bien le sujet de la ventilation, hein. Hugues, on en parle beaucoup évidemment, cette ventilation, notamment avec la crise sanitaire. Est-ce que les équipements sont suffisamment entretenus en France aujourd'hui?
À l'évidence, non. Mais c'est un très bon sujet sur lequel le CINASAF, également membre de la nouvelle association française de la ventilation, s'est déjà positionné. Et au sein du CINASAF, c'est plutôt Claude Bossec qui suit ce sujet-là.
Alors Claude, écoutez, bienvenue. On va pouvoir en discuter évidemment et rentrer dans le vif du sujet avec vous. Donc même question. Voilà, en tout cas, le CINASAF souhaite monter en puissance, hein, pour améliorer la maintenance, l'entretien des installations de ventilation en France lorsqu'elles existent, bien évidemment. D'une manière générale, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vision du CINASAF sur l'entretien et la maintenance de la ventilation en France?
Alors Fabrice, merci. Et pour que les auditeurs comprennent bien ce sujet très important qui est la ventilation, je voudrais recontextualiser la chose. Moi, je l'appelle le tueur invisible. Pourquoi?
Parce vous que y allez constat... fort.
Oui, parce que c'est le constat. C'est quelque chose qui est invisible et qui tue aujourd'hui dans le monde 9 millions de personnes, hein, directes ou indirectes. Et si on fait un peu plus de précision pour que les auditeurs comprennent bien les enjeux sanitaires qui sont liés à cette qualité d'air, hein. Les risques sanitaires sont, pour l'occupant, les problèmes d'asthme, d'allergie respiratoire, les maux de tête, les nausées, et dans les cas les plus durs, ça peut être même des effets cancérigènes. Donc vous voyez que le sujet n'est pas simple et qu'il faut le prendre à bras-le-corps, et encore une fois, comme tout ce qui est invisible, et on l'a bien appris à travers cette crise sanitaire, c'est des choses comme ça qui apparaissent et qui ne sont pas visibles, qui font le plus grand des dégâts. Donc, par partant de ce postulat que c'est un enjeu qui est important, qui est nuisible, il faut aussi que vous dire que le CINASAV avait fait à l'époque, en 2018, ça commence à dater, hein, une petite enquête BVA en 2018, et je vais pas vous ressortir tous les éléments, mais ce qui intéresse l'auditeur, c'est que on s'aperçoit que les gens ne sont pas conscients aujourd'hui des problèmes liés à cette qualité d'air et ils sont mal informés et que forcément il faut absolument remédier à ce problème en traduisant finalement ce côté un petit peu qui est pas matériel mais de retrouver une source d'information qui permet de les captiver et surtout de les informer. Je reviens aussi sur cette prise de conscience du CINASAV lorsqu'on a fait cette étude. Bien entendu qu'on est forcément lié à effectuer quelque chose d'assez intéressant. Et la preuve en est, c'est qu'on était les premiers moteurs à créer cette Association française de la ventilation, qui est importante. J'en ferai juste un petit paragraphe. Hein. Cette association permet finalement de recentrer les problèmes liés et surtout coordonner les problèmes de la filière. Et c'est important. Et donc, on est cofondateur avec, bien entendu, d'autres acteurs importants du système. Maintenant, si on regarde et si on zoome, le problème lié à la maintenance, il n'est pas, il est en dernier lieu. Et pourquoi je dis le dernier lieu? Il faut qu'on comprenne bien que derrière tout ça, il y a déjà des constructeurs qui mettent des équipements en place et que pour que ces équipements puissent forcément donner la qualité nécessaire à cette ventilation, il faut que l'installation soit faite forcément dans de bonnes conditions. Et lorsque l'installation est faite dans de bonnes conditions, il faut absolument miser aussi sur la mise en service qui est importante. On ne peut pas aujourd'hui maintenir si tout ça n'est pas forcément lié à une espèce de chronologie et que tout doit être respecté. Il faut savoir que jusqu'alors, les mises en service sur les équipements liés à la ventilation étaient optionnelles. Elles deviennent maintenant obligatoires et ça va nous permettre de finalement partir sur quelque chose de stabilisé, une fondation, et on peut faire une maintenance qui soit à la hauteur de ces enjeux que quand tout ça est bien paramétré. Donc, quand vous avez coché toutes ces cases-là, je crois qu'on est en capacité de pouvoir bien entretenir le matériel qui est bien installé, la mise en service est bien faite. Et donc là, vis-à-vis de l'occupant, on est à la hauteur de ces enjeux.
Alors justement, on rentre un peu dans le détail. Quelles sont les solutions pour la ventilation, Claude Bozek?
Alors, bien entendu, hein, que l'intérêt de tout ça, c'est qu'on voit de plus en plus les constructeurs trouver des solutions beaucoup plus adaptées, hein, parce qu'à une époque, le fait de renouveler l'air, c'était bien. Derrière, on sait très bien que quelque part, renouveler l'air, ça a des coûts. Hein, et forcément, quand on parle de trajectoire bas carbone, et d'ailleurs, vous en avez fait longuement une représentativité, c'est une obligation que d'être dans cette trajectoire bas carbone pour 2050, et le fait d'extraire et d'envoyer de l'air chauffé, ça a des coûts, et forcément, c'est pas bien pour notre planète, et que les constructeurs sont capables de mettre en place maintenant des systèmes comme le double flux qui permet finalement d'ôter les calories du rejet de cet air vicié et de réchauffer l'air qui rentre. Hein. C'est des procédés techniques qui permettent finalement d'améliorer les conditions par lesquelles l'économie est quand même quelque chose de présent. Sachant aussi derrière, encore une fois, hein, le renouvellement est important, ça c'est pour la santé de l'occupant. Derrière, si on peut allier aussi l'économie et les rejets d'une air qui est chauffé soit par de l'énergie, ben forcément, on contribue finalement à ce côté vertueux qui est la trajectoire carbone. Donc on ne pourra plus exercer demain des métiers sans qu'il y ait ce côté vertueux de l'écologie, de la planète, de mettre forcément quelque part l'occupant dans les conditions de santé optimum, et puis derrière tout ça doit se maîtriser et être informé et à la compréhension de l'occupant.
J'ai une question pour vous, Claude Bozek, vous qui êtes au contact justement des particuliers, est-ce que le public est réceptif à ces enjeux ou est-ce que on se dit finalement le plus important c'est peut-être faire des économies, c'est le prix, ou là il y a un mouvement, là vous sentez que ça monte aussi dans l'opinion?
Alors oui, tout à fait, hein, pour dans la continuité, mais je vais vous donner quand même les leviers. Le CINASAV a une particularité, c'est qu'on est une organisation professionnelle avec des adhérents qui rentrent dans le logement. Mmh. Et donc ça, c'est une chose essentielle, c'est un levier essentiel, c'est qu'on est directement avec le... Alors on va parler le bon conseil, la bonne méthode, le geste santé, on va parler du geste santé, le geste économique. On a une époque expliquée, et pour vous donner un petit peu les formules qui frappaient l'occupant, c'est que quand on gagnait un degré sur les températures de consigne, c'était 7% d'économie d'énergie. Et ben là derrière, on peut traduire par nos adhérents une capacité d'informer et d'avoir et ce geste santé et ce geste économique et de prendre conscience que derrière la qualité d'air est importante et on est plutôt bien accueilli parce que forcément le premier ambassadeur finalement de nos entreprises et de notre organisation professionnelle c'est bien le technicien qui va au contact du locataire.
On a également des différentes technologies hein, qui sont de plus en plus efficaces.
Oui, parce que forcément, on a des constructeurs en France qui sont, moi je dis toujours vertueux à la recherche finalement des trajectoires. Quand je vous disais que nous mainteneurs maintenant on ne peut plus faire la maintenance comme on le faisait à une époque parce que on a un souci d'économie, on a un souci de santé de l'occupant, mais derrière le constructeur a les mêmes contraintes et il doit aujourd'hui mettre en place des équipements. Alors encore une fois, hein, on a parlé du double fume, mais il y a un tas de d'équipements qui arrivent sur le marché et notamment vous le savez très bien, la digitalisation de nos métiers va être importante. Et là, je vais vous donner un exemple très bien de la data. Si demain, nous avons des capteurs dans le logement, ça va nous permettre d'optimiser les modes de fonctionnement. Hein. Quel intérêt de ventiler, même avec une double flux, 24 heures sur 24 l'intérêt, c'est de savoir qui est à l'intérieur. Et à ce moment-là, quel est l'élément le plus précis, eh ben c'est nos capteurs qui vont nous permettre d'optimiser les temps de fonctionnement en fonction de l'occupation. Et ça, notamment, la digitalisation va rentrer pour une grande partie sur notre capacité à mieux maîtriser ces enjeux de qualité d'air.
Alors, Roland Bouquet, le président veut réagir.
Oui, pour la digitalisation. Pour aller dans le sens de ce que dit Claude, bien sûr, je crois que c'est finalement le sondage BVA qu'on avait fait au CINASAV qui reflétait ce problème de connaissance du client final sur la qualité d'air intérieur. Et demain, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est de pouvoir, on rentre chez les gens et de pouvoir installer des capteurs, notamment CO2, qui est un bon baromètre finalement, hein, le CO2 de la qualité d'air ambiante du client. Et d'avoir des voyants. Je crois que la meilleure preuve, c'est par l'image. C'est-à-dire que le particulier, pour qu'il se rende compte vraiment de sa qualité d'air, eh bien d'avoir des voyants.
Faut visualiser.
Il faut visualiser. Je crois qu'il faut faire quelque chose de simple aussi, hein, bien sûr, facilement identifiable par le particulier. Et puis, comme disait Claude, en lien ces capteurs avec le système, c'est-à-dire que on va venir modifier la vitesse des ventilateurs en fonction de la qualité d'air intérieur pour préserver aussi je dirais la chaleur dans le logement.
C'est vrai qu'on entend souvent que l'air est plus pollué hein, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors il y a une petite campagne pour bien aérer les logements, etc. Je sais pas si c'est encore fait, en tout cas on a l'impression que là il y a une accélération. Comment on fait Claude Bozek pour améliorer encore la qualité de l'air intérieur en France?
Alors, moi, j'avais deux choses à dire, hein, faut que l'auditeur suive bien. Hein. Depuis 1974, il y a eu des RT successifs qui arrivent maintenant sur une RE 2020, hein, et vous comprendrez bien qu'on a rendu les logements de plus en plus étanches. Parce que c'était une contrainte en disant que plus on était étanche, plus on était forcément à la hauteur des enjeux liés à la consommation. En revanche, forcément, on n'a pas vu arriver ou on n'a pas voulu voir arriver ces problèmes de qualité d'air et forcément, ça s'est dégradé. Et enfin, la RE met en place finalement cette contribution à cette qualité d'air intérieur. Et ce qui permet à travers, et vous avez bien souligné, lorsqu'on est dans du neuf, il n'y aura plus de problème. Lorsqu'on est dans l'ancien et dans la réhabilitation, c'est là où on a une grosse partie des enjeux qui doivent. Pas de VMC lorsqu'il y a lorsqu'on est dans de la ventilation statique, ça c'est un peu compliqué, donc on parle d'aération. Et bien souvent, on a un problème de compréhension entre l'aération et la ventilation. La ventilation, c'est bien quelque chose qui extrait de l'air à des moments précis dans la journée, avec des quantités d'air. Et l'aération, c'est à bien un moment donné quand on constate. Alors, bien entendu, on voit dans les écoles, on met des capteurs CO2, et puis, ça mesure le dioxyde de carbone qu'il y a à l'intérieur, et on se dit, il faut ouvrir les fenêtres. Mais encore une fois, dans la trajectoire bas carbone, d'ouvrir les fenêtres et d'envoyer de l'air comme ça, forcément, on gagne sur la qualité et la santé de l'occupant. En revanche, on n'est pas bon on coche pas la case de la trajectoire bas carbone. Donc, il faut bien être je pense qu'on doit être attentif. Bien entendu qu'on doit aérer tant que les équipements sont pas compatibles ou quand la rénovation n'est pas faite. Mais la finalité de tout ça, il faut de la ventilation. Il faut que la ventilation soit maintenant partout dans nos ensembles immobiliers et puis dans les locaux pour pouvoir bien piloter aujourd'hui. Et le fait de faire simplement de l'aération, c'est que ça dénote que les installations n'ont pas été bien prévues au départ.
Merci Claude, vous voulez réagir Roland ? On a fait une grande partie effectivement. En tout cas, un grand merci. On comprend mieux effectivement les enjeux et cette prise de conscience qu'on doit tous avoir. En tout cas, c'est tout à fait en marche. On avance dans notre émission. On va parler de l'attractivité des métiers de la maintenance, un sujet crucial. C'est avec Cyril Radici. Et Cyril, les métiers de la maintenance, évidemment, offre très importante. Ils recrutent, mais ils rencontrent comme d'autres acteurs du génie climatique des difficultés, faute de candidats en nombre suffisant. Alors, quels sont les besoins du CINASAV et surtout, comment on peut répondre à ces besoins qui sont, on a l'impression, exponentiels ?
Effectivement, Fabrice, on a un vrai souci, il y a une vraie urgence. C'est qu'aujourd'hui, on a un terrain qui est sous tension, depuis plusieurs années maintenant. On sait qu'on est, on a sondé un peu nos adhérents. On a un besoin en 2022 qui est supérieur à 2500 techniciens de maintenance et qui va augmenter d'année en année avec cette obligation d'entretien obligatoire des pompes à chaleur. Mmh. Donc on sait que d'année en année, ce volant de 2500 demain deviendra 3000, ensuite 3500, ensuite 4000. Donc on a une urgence capitale à trouver en tout cas des techniciens de maintenance. La valeur ajoutée, clairement, pour nos entreprises de maintenance, c'est l'humain, c'est les ressources humaines. Donc on a beau disposer des meilleurs équipements, de la meilleure technologie, mais si on n'a pas l'humain pour agir sur la technologie, pour être au contact du client particulier, ça ne peut pas fonctionner.
Pour faire les installations, pour faire la maintenance dont on a parlé, là, on va être un peu bloqué, effectivement. Ces bras, ces têtes bien faites, évidemment, il les faut. Comment vous allez travailler sur l'attractivité des métiers ? On sait que c'est là où le bât blesse un petit peu. C'est vrai que les jeunes sont pas forcément c'est pas forcément un métier peut-être très gratifiant qui jouit d'une bonne image. Comment on fait pour travailler là-dessus ?
Alors, vous avez raison, Fabrice. Nous, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on se dit mince, on a un taux de chômage aujourd'hui qui est important en France, et à côté de ça, on a des métiers, on a des entreprises qui recrutent à tour de bras, qui sont prêts à faire les efforts. Voilà, on est prêt à accompagner aujourd'hui les jeunes, accompagner le personnel en reconversion, mais on manque cruellement de bras pour un métier qui aujourd'hui est utile pour l'occupant, qui est bien rémunéré, qui est un métier où finalement on peut avoir cette autonomie tant cherchée par les candidats à l'emploi, qui finalement agit pour la planète. Ça a été abordé tout à l'heure avec mon président Roland Bouquet, acteur de la décarbonation. Aujourd'hui, on est vraiment sur ces métiers. Alors, nous, ce qu'on cherche au CINASAV, c'est finalement cette fameuse équation gagnante où notre ambition, c'est de recruter les bonnes personnes au bon endroit. Et pour ça, il faut qu'on crée les vocations là où elles se situent. L'erreur qu'on pourrait faire, ce serait d'aller former des gens dans le sud pour les envoyer plus tard dans le nord. Non, il faut qu'on arrive à former les techniciens, les futurs techniciens de maintenance, là où les besoins se trouvent.
Ouais, il y a des bassins d'emploi, enfin des bassins comme ça en tension, je sais pas, vous passez du sud, du nord.
Ouais, moi je vous dirais, Fabrice, que la tension elle est généralisée sur toute la France. Il y a pas un endroit aujourd'hui, je connais pas une entreprise qui me dit voilà, Cyril, aujourd'hui tout va bien, je ne manque pas de techniciens de maintenance. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation là et je crois que ce qui est important, et ça a été rappelé tout à l'heure par mon président, on parlait de médecin de famille. Vous voyez, le technicien de maintenance, finalement, c'est le médecin de famille de l'équipement. Mmh. Et aujourd'hui, on a ce paradoxe où, finalement, on a des entreprises qui refusent même du client par manque de bras pour pouvoir intervenir et entretenir les équipements chez le client particulier. Donc, il y a urgence. On souffre, effectivement, Fabrice, vous l'avez souligné, cette fameuse invisibilité auprès du client. Et on doit travailler auprès des jeunes, auprès du public en reconversion, sur l'image, sur le métier du technicien de maintenance.
Ouais, cette image, elle est comment aujourd'hui, vous diriez ?
Bah, moi, je dirais qu'elle est un peu inexistante. Alors, faute à la profession peut-être. On a tous une part de responsabilité. Moi, j'ai une tendance à dire que il n'y a pas une situation qui est toute noire ou toute blanche. Je crois que c'est des nuances de gris. On aurait dû, nous, au sein de nos métiers, communiquer, valoriser notre emploi. Je crois qu'il y a eu, vous savez, c'est un peu un phénomène général de l'univers du bâtiment où aujourd'hui on a souffert de cette image. Le bâtiment, c'est finalement l'endroit où on atterrit quand on n'a pas bien bossé à l'école. Ce qui est faux, je vous assure, aujourd'hui, quand on recrute des techniciens de maintenance, on est plutôt sur des profils, bac pro, BTS. On voit qu'au contraire, cette filière, elle a progressé. Parce que les métiers ont progressé aussi en technicité. Ça, c'est important.
Bien sûr. Alors, tiens, justement, est-ce qu'on a des pistes pour inverser cette tendance auprès des jeunes et des moins jeunes, évidemment, susciter des vocations ?
Oui, moi, je vais vous dire, Fabrice, on a lancé, nous, au CINASAV, on a voulu casser les codes. C'est un peu dans notre ADN, et vous l'avez vu tout à l'heure en introduction. En 2021, on a beaucoup innové. En 2022, on va continuer d'innover. Et on a travaillé sur une marque qui s'appelle Energy Makers. Mmh. Energy Makers, c'est l'idée de dire, on va pas communiquer en notre nom propre, nous CINASAV, organisation professionnelle, syndicat professionnel, ça fait pas rêver les jeunes. Bah, on est entre nous, on peut se dire les choses. Ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer avec leurs outils, avec leurs codes. Et on a créé cette marque, Energy Makers, qui elle va être dédiée principalement à l'attractivité de nos métiers des techniciens de maintenance, avec une cible plutôt jeune et un public en reconversion. Alors, Energy Maker, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande campagne de communication qui se veut être ambitieuse et qui va démarrer au 1er mars, officiellement, auprès de publics jeunes, avec des outils modernes. Et pour vous dire, on casse les codes, le CINASAV aujourd'hui est présent, et vous l'avez rappelé, sur un certain nombre de réseaux sociaux. Là, on va aller chercher des réseaux sociaux sur lesquels n'étions pas jusque-là. On va aller sur TikTok, on va aller sur Snapchat, on va aller sur Instagram. Notre objectif, et il faut l'avoir en tête, c'est de pouvoir fournir à nos entreprises des techniciens de maintenance.
Roland, vous êtes comment sur TikTok ? Ça se passe bien ?
Mes enfants plus calés que moi, mais en tout cas, on sera attentifs.
En tout cas, non, je pense que c'est une très bonne stratégie, effectivement, parce qu'il faut aller chercher le public là où il est. Et les grands médias traditionnels, c'est vrai que c'est pas là où se concentrent les forces vives, on a l'impression. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette plateforme, Cyril, Energy Makers ?
Alors, ce qui est important sur cette plateforme, c'est que finalement, nous, ce qu'on a voulu au CINASAV, c'était pas simplement de faire venir sur nos métiers, c'était un peu à l'image du rugby tout à l'heure, c'était de transformer l'essai. Voilà, ça, pour nous, c'est important. On fait venir sur le site Energy Makers, on montre ce qu'est le métier de technicien de maintenance, et grâce à un système de géolocalisation, on est en capacité de montrer aux jeunes les formations qui se situent autour de lui, mais également les entreprises susceptibles de les accueillir. Donc cet outil qui est à disposition de nos entreprises va aussi être un véritable moyen pour elles de promouvoir, en tout cas, les postes à pourvoir dans leur structure respective.
Voilà, donc c'est pas juste une campagne, c'est aussi un dispositif qui vise à recruter activement.
Bien sûr.
Aimer le métier.
On aura gagné, Fabrice, lorsqu'on aura des techniciens de maintenance dans nos entreprises. Et ça, croyez-moi, en tout cas au CINASAV, on va rien lâcher.
Ouais. Petit aparté, il y aura une émission de télé, justement, les rendez-vous CINASAV. Ça se passera le 17 mars 2022 à 18h, qui sera entièrement consacré au sujet de l'attractivité métier. Voilà, peut-être des astuces, des trucs et astuces pour recruter aussi dans sa région. Il y a plein de bonnes volontés. Et puis voilà, les forces sont là. On termine avec justement ce recrutement des techniciens de maintenance. Pour l'instant, ça reste compliqué.
Alors, pour le moment, c'est assez complexe. Nous, on multiplie les pistes au CINASAF. On a Energy Makers, mais on travaille aussi en lien avec le Pôle emploi. On travaille beaucoup en local. On parlait tout à l'heure de nos régions. Chaque bureau en région travaille avec des CFA, avec des centres de formation, pour finalement adapter les formations, remplir ces classes qui, aujourd'hui, posent problème. On a des classes qui existent, mais il faut réussir à les remplir. Donc, il y a tout un travail. Et nous, on aime à dire au CINASAF qu'on co-construit les choses. On ne va pas le faire seul. On va le faire avec les organismes de formation qui vont bien et Pôle emploi qui peut bien évidemment nous aider en tout cas sur ce grand dossier.
Et ben voilà, en tout cas, on vous sent plein d'enthousiasme pour lancer ces sujets, ce sujet de l'attractivité, hein, c'est vrai qu'il est crucial. Et vous êtes en concurrence aussi avec d'autres métiers du bâtiment. Je pense que tous les métiers, Hugues, en ce moment, sont en tension. Hein.
Oui, et ce sera un des grands sujets d'Interclimat également. On a l'intention de faire des choses très très concrètes également sur Interclimat, donc avec l'ensemble des partenaires de la filière, avec le CINASAF, puis avec tous les autres, puisque effectivement, les tensions sur les métiers du génie climatique sont importantes dans quasiment tous les métiers, en fait.
Roland Bouquet, il nous reste quelques minutes, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que l'émission a été extrêmement dense, mais en tout cas on comprend bien que voilà, la maintenance joue un rôle capital. Hein.
Oui, tout à fait, on pourra en parler encore quelques heures, on est bien Bâti Radio finalement. merci à Cyril, oui, sur ce travail par rapport à Energy Makers. Et puis je crois que voilà, on a vraiment une histoire à raconter aux jeunes demain, à ces jeunes qui sont en collège, aux parents également, hein, aux parents. Je crois que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'un sens dans leur travail. Ça c'est important, que ça soit pour régler les appareils correctement, pour participer à cette fameuse décarbonation, et puis aussi au niveau du sujet de la mobilité. Il y a plein de choses à dire, et vraiment je suis confiant. On s'aime. Dans les deux sens du terme, pour récolter, je dirais demain, c'est sûr. Alors, la maintenance, Fabrice, vous l'avez rappelé, effectivement, joue un rôle vraiment capital. Je crois qu'on l'a dit durant toute cette émission. Elle doit se penser vraiment dès la construction et doit être au cœur de la politique de décarbonation. Alors, la maintenance, on peut le dire, hein, c'est le moyen de maintenir la performance des équipements. On l'a rappelé. Et leur durabilité, bien sûr. Le propriétaire, bailleur et ou l'occupant sera toujours finalement le décisionnaire final quant au choix des solutions techniques qu'il souhaite installer ou renouveler. Alors ne pas intégrer la maintenance d'un équipement sur sa durée de fonctionnement serait, à mon avis, un non-sens économique et un non-sens également écologique. On l'a dit, parce que dérive de consommation, parce que réduction de la longévité des équipements, inconfort, bien sûr. Donc les professionnels de la maintenance côtoient et conseillent au quotidien tous les habitants. Et ils sont le maillon finalement essentiel à une mise en œuvre réussie d'une politique et d'une culture bas carbone efficace. Alors je terminerai mes propos en rappelant que ce n'est pas nous, finalement, les entreprises du CINASAV qui faisons les marchés de l'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le client qui sera le décideur final. Et c'est lui qui arbitre la partie. Donc il faut se mettre à sa place. Il subit aussi des variations climatiques et des surprenantes variations tarifaires des énergies. Alors oui, il nous demande conseil. Mais à la fin, c'est lui qui décidera de son système et d'énergie qu'il alimentera, bien sûr. Ce dont il pourra être certain, vraiment certain, c'est qu'il pourra toujours compter sur les experts de la maintenance du CINASAV pour installer, mettre en service, entretenir et dépanner leurs solutions.
Et on a fait en tout cas un bon tour sur ce CINASAV que on connaissait peut-être pas encore, des initiatives pour recruter. On a appris beaucoup de choses sur ce médecin de famille de la maintenance en tout cas. Et la prévention vaut toujours mieux que de réparer ensuite. Hugues, c'était encore une fois passionnant d'entrer dans le détail comme ça d'une profession. Bien sûr, on aura plaisir à retrouver d'autres acteurs. Un grand merci en tout cas à Roland Bouquet, le président président du CINASAV.
Merci
qui nous
beaucoup,
a
Fabrice.
Accompagné. Cyril Radici à vos côtés, directeur général du CINASAV. Claude Bossec qui était avec nous à distance, président région du Grand Est du CINASAV. On vous donne merci Hugues pour avoir préparé
merci,
cette
Fabrice.
Émission.
Merci
Hugues. David Payan pour l'avoir réalisé. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous Uniclimat par Interclimat par Uniclimat. À très bientôt.
Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.